J'ai une très bonne question pour vous. Comment pouvons-nous faire partie de la véritable Église du Seigneur? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourrait transformer votre vie, aujourd'hui même, à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je peux vous dire qu'on a une excellente émission pour vous aujourd'hui. Et c'est toujours dans le livre de l'Apocalypse. J'ai bien hâte d'entendre les réponses que le Seigneur va nous donner aux questions que voici. Pourquoi Dieu appelle-t-il des gens de condition humble à le servir? Pourquoi Jésus ne s'est-il pas incarné dans la peau d'un puissant roi ou d'un redoutable guerrier? Pourquoi le Seigneur appelle-t-il des gens ordinaires à son service? Qu'est-ce que l'Église du Seigneur Jésus doit enseigner aux gens qui la fréquentent? Quelles prescriptions les membres de l'Église du Seigneur doivent-ils observer? Le Seigneur force-t-il les gens à le laisser entrer dans leur cœur? De quelle manière est-ce qu'on doit lire et écouter la parole de Dieu? Comment pouvons-nous faire partie de la véritable Église du Seigneur Jésus? Demeurez avec nous, notre Dieu merveilleux est sur le point de répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Oui Seigneur, on ne cessera jamais de pouvoir dire « Tu es merveilleux, tu es merveilleux ». Parce que tu l'as toujours été, tu l'es éternellement. Et on veut Seigneur, on veut se placer à tes pieds en ce moment, comme Marie était aux pieds de Jésus pour recevoir tes instructions. Pour savoir ce que tu attends de nous, ce que tu veux changer dans nos vies, ce que tu veux transformer, ce que tu veux nous faire connaître de ta personne. Aide-nous à mieux te connaître, à mieux te servir. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous terminons aujourd'hui le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, l'orgueil de la vie. Chers amis, débutons notre lecture. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que tu dis, je suis riche. Nous avons déjà mentionné que Laodicée était une ville prospère. Elle était probablement avec Sardes, la ville la plus riche de la région à cette époque. Le fait d'être riche n'est pas mauvais en soi, mais il comporte un réel danger décrit plus loin dans la phrase. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Bien que ce ne soit pas clair dans la traduction française, la richesse dont il est question ici est exclusivement matérielle. Cette accumulation de biens donne à l'homme un sentiment de fausse sécurité. Il pense qu'il n'a plus besoin de rien. Ni de personne. Pourtant, l'histoire nous enseigne que les crises économiques peuvent faire s'écrouler comme un château de cartes la confiance que nous investissons dans nos biens matériels. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous enseigne, entre autres dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, les versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous pensons souvent que tous les problèmes du monde pourront être réglés avec de l'argent. Mais c'est faux. Et l'Église de la Odyssée en est la preuve. Elle se dit « Je suis riche. » « Je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. » Mais le Seigneur Jésus lui répond, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu ?» Elle se vantait de l'accumulation de ses biens matériels. L'église de Smyrne, au contraire, était très pauvre d'un point de vue matériel. C'était l'église des esclaves et des démunis. En fait, on ne comptait pas beaucoup de riches dans l'église du premier siècle, Et l'apôtre Paul ne s'en cache pas dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Et, d'un bout à l'autre de la Bible, le Dieu Tout-Puissant appelle des gens de condition humble à le servir. Pourquoi agit-il ainsi? Paul nous donne la réponse au verset suivant. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Faiblesse des hommes et puissance de Dieu. » Le meilleur exemple de ce principe est Jésus-Christ lui-même. En tant que créateur de l'univers visible, Jésus aurait pu choisir de s'incarner dans la peau d'un puissant roi ou d'un redoutable guerrier. C'est d'ailleurs ce genre de personnage que le peuple d'Israël attendait comme Messie. Mais, au lieu de cela, il est venu marcher parmi nous comme un prédicateur itinérant, sans aucun autre bien matériel que les vêtements qu'il avait sur le dos. Il pouvait ainsi attirer à lui des gens de condition humble. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Parce que sa puissance devient évidente lorsqu'elle s'exprime à travers la faiblesse humaine, comme il l'enseigne à Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'homme est une créature orgueilleuse. Si Dieu lui donne la puissance, l'homme sera tenté de s'arroger le mérite de ses victoires. Or, lorsque nous regardons l'Église chrétienne à ses débuts, on doit se demander honnêtement comment un petit groupe d'esclaves et de pauvres a pu survivre à 3 siècles de persécution. Comment aurait-il pu résister par ses propres forces à la puissance de Rome qui avait soumis tout le monde connu à cette époque? Seule l'omnipotence de Dieu a permis à l'Église de résister à l'Empire romain et de le vaincre. Mais avec les siècles, l'Église s'est enorgueillie. On a construit de fastueux bâtiments de culte où le génie créateur humain était plus exalté que la souveraineté de Dieu. L'Église s'est enrichie et est devenue insouciante. On encourageait les gens à léguer leurs biens à l'Église lorsqu'ils mouraient. Et bien souvent, toutes ces richesses servaient à nourrir le goût du luxe de l'élite sacerdotale plutôt que de propager la vérité de l'Évangile. Mais si on considère la question d'un point de vue spirituel, l'Église s'est considérablement appauvrie avec ses richesses matérielles, tout comme l'Église de Laodicée. Elle est la malheureuse, et son état est pire que les 6 autres églises mentionnées dans nos 2 chapitres. Elle fait pitié, car elle est frappée de pauvreté spirituelle. On n'y trouve aucune étude de la parole de Dieu, aucun amour pour Jésus-Christ et aucun témoignage de sa grâce qui procure la vie éternelle. Malgré tout cela, cette Église est complètement inconsciente de son état réel. Elle est nue car elle est dévêtue de la robe de la justice. Lettre ouverte aux chrétiens. Un pasteur de la région d'Arlington, aux États-Unis, a un jour écrit cette lettre ouverte et il l'a publiée dans le bulletin de l'église locale. « Chers chrétiens, chères chrétiennes ordinaires, je t'écris cette lettre pour t'aider à te débarrasser de ce sentiment d'inutilité qui te cause beaucoup de soucis en ce moment. Tu m'as dit plusieurs fois que tu ne voyais pas comment Jésus-Christ pourrait bien t'appeler à son service. L'Église est en partie responsable de ce sentiment. Je pense particulièrement à la mentalité ambiante qui réclame le succès à tout prix. Notre bulletin rapporte avec fierté le témoignage de notre frère J'en ai plein les poches, qui utilise sa position influente pour témoigner de notre Seigneur. Et lors de notre dernier souper pour les jeunes, nous avions invité cet athlète professionnel bien connu, Pierre Lemeilleur, qui suscite le respect de ses coéquipiers lorsqu'il témoigne de la grandeur de Dieu. Avec ce genre de mentalité, nous sommes parfois portés à penser que si nous ne sommes pas une étoile du monde sportif ou si nous n'occupons pas une position sociale influente, nous ferions mieux de nous taire. Car alors, personne ne se soucie de ce que Jésus a fait dans notre vie. Malheureusement, nous oublions alors une vérité élémentaire du témoignage chrétien. Mais fort heureusement, cela devrait t'encourager. Dieu a choisi les choses folles aux yeux du monde pour confondre les sages. Et il a choisi les choses faibles aux yeux du monde pour confondre les fortes. Il a décidé de se servir de personnes possédant peu de force et peu de notoriété pour mettre à mal les prétentions des puissants. Tout cela fait que personne ne se vante devant la présence et la souveraineté de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a choisi ses disciples, il n'a pas pris des athlètes olympiques ou des sénateurs romains. Il a arrêté son choix sur des personnes simples comme nous. Quelques-uns vivaient de la pêche, d'autres étaient membres d'un parti politique extrémiste, et il y avait même un publicain dans le tas, c'est-à-dire un homme de fort mauvaise réputation aux yeux de la société d'alors. Et pourtant, cette poignée d'hommes, sans instruction et sans pouvoir réel, a mis tout l'Empire romain sans dessus-dessous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment y sont-ils parvenus? À cause de leur popularité? Ils n'en avaient aucune. À cause de leur prestige? Ils étaient méprisés par l'ensemble de la société à laquelle ils appartenaient. Leur seule force résidait dans la puissance de Jésus-Christ par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Chers chrétiens, chères chrétiennes ordinaires, n'oublie jamais que nous avons encore besoin de gens ordinaires que Dieu utilisera à sa gloire. Cette lettre ouverte pourrait s'adresser à tous les chrétiens et chrétiennes à travers les siècles. Un manque de connaissances. Pourtant, cette inscription sur la cathédrale de Lübeck en Allemagne nous fait réfléchir. Ainsi nous parle Jésus-Christ notre Seigneur. Tu m'appelles maître, mais tu ne m'obéis pas. Tu m'appelles lumière, mais tu ne me vois pas. Tu m'appelles le chemin, mais tu ne marches pas en moi. Tu m'appelles vie, mais tu ne me choisis pas. Tu m'appelles sage, mais tu ne me suis pas. Tu m'appelles admirable, mais tu ne m'aimes pas. Tu m'appelles riche, mais tu ne me demandes rien. Tu m'appelles éternel, mais tu ne me cherches pas. Tu m'appelles souverain, mais tu ne me sers pas. Tu m'appelles miséricordieux, mais tu ne me fais pas confiance. Tu m'appelles tout-puissant, mais tu ne m'honores pas. Tu m'appelles juste, mais tu ne me respectes pas. Si je te condamne, ne me blâme pas. Cet écriteau aurait pu être placé sur le bâtiment où l'assemblée de Laodicée se réunissait. Elle est l'église dont Stanley Haight parlait lorsqu'il prononçait les paroles suivantes. « L'église ne m'a pas dit que j'étais un pécheur. Elle ne m'a pas rendu conscient de mon état de perdition. » Elle ne m'a pas offert le salut éternel accessible seulement par Jésus-Christ. Elle ne m'a pas prévenu des horribles conséquences du péché, de la certitude de l'enfer et du fait que seul Jésus-Christ pouvait m'en préserver. Nous avons plus besoin d'enseignements sur le jugement dernier que sur la règle d'or. Nous avons besoin d'être enseignés sur le Dieu vivant et sur le diable vivant. Nous devons apprendre à désirer le ciel et à éviter l'enfer. L'Église ne doit pas m'enseigner comment me sentir bien dans ma peau, mais comment renaître. Nous vivons au temps de l'Église de Laodicée, et très souvent, l'Église aujourd'hui ne parvient pas à témoigner de la grâce de Dieu qui procure la vie éternelle en Jésus-Christ. Poursuivons notre lecture du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Cet or est le précieux sang de Jésus-Christ, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ces vêtements sont la justice de Jésus-Christ, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Ce médicament est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux des croyants. Sir William Ramsay commente ce verset avec perspicacité dans son livre « Les lettres aux sept églises d'Asie ». L'église de Laodicée doit aussi prendre conscience de son aveuglement, mais cet état n'est pas incurable. Elle souffre de cette maladie. Et elle a grand besoin d'être traitée médicalement. Mais les docteurs de sa fameuse école de médecine ne peuvent rien faire pour elle. La publicité qu'ils utilisent et qui est encore à utiliser aujourd'hui dans le monde entier, ne fait que jeter la poudre aux yeux. Les membres de l'Église de Laodicée doivent observer la prescription du Créateur, même s'ils doivent pour cela souffrir et persévérer. Un appel à la repentance, le verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle. » Le verbe du texte original grec est « zélo ». Il signifie littéralement « brûler d'envie ». Dans un mauvais sens, il peut être traduit par « bouillir de colère ». Mais si, il s'agit d'être zélé dans la poursuite du bien. Ces idées de brûler et de bouillir rappellent bien sûr la tiédeur coupable de l'Église. Dieu réclame qu'elle soit en feu pour lui. Il lui conseille aussi de se repentir, car elle en a plus besoin que toutes les autres Églises. Ce message s'adresse au temps actuel, mais vous ne serez pas très populaire si vous le transmettez. Je puis vous l'assurer. Mais il n'est pas trop tard pour retourner au Seigneur, car il reprend et châtie tous ceux qu'il aime dès maintenant. Et il vaut mieux être châtié maintenant pour peu de temps qu'être châtié plus tard pour l'éternité. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Même si cette parole s'adresse aux chrétiens de Laodicée, cette invitation s'adresse à tous les hommes. Un jour, l'artiste Holman Hunt a tenté de peindre sur un tableau l'image derrière ce verset. On y voyait Jésus à l'extérieur de la maison qui frappait à la porte. Une fois terminé, il a invité ses amis pour connaître leurs impressions sur son œuvre. L'un d'eux lui a fait remarquer qu'il avait négligé de mettre une poignée sur la porte. Holman a répondu, « Cette porte représente le cœur humain. La poignée est donc à l'intérieur. » Dans l'Apocalypse, Jésus se tient à la porte et il y frappe. Mais il ne la défoncera jamais. Il a remué le ciel et la terre pour parvenir jusqu'à la porte de votre cœur. Mais une fois arrivé là, il s'arrête et il frappe doucement. Vous devez alors ouvrir la porte de votre cœur pour le laisser entrer. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le plus merveilleux, c'est qu'il apporte le goûter. Il nous a donné son corps et son sang afin que nous obtenions la vie éternelle. Nous pouvons maintenant nous nourrir de sa parole et communier avec lui afin de mieux le connaître. Lisons Apocalypse chapitre 3 verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Une fois de plus, j'attire votre attention sur la relation du Père avec le Fils. Cette relation est unique. Même si nous participons à cette relation, elle ne possède pas l'intimité entre le Père et son Fils unique. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus prend soin de distinguer sa relation avec le Père de la nôtre. « Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le Seigneur Jésus est assis avec le Père sur son trône. Ces paroles nous préparent à la prochaine section du livre, que nous verrons dans les prochains chapitres. Une brève récapitulation. Apocalypse chapitre 3 verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne suffit pas d'écouter distraitement la parole de Dieu. Il nous faut l'étudier soigneusement et la mettre en pratique dans nos vies. Le Saint-Esprit doit être notre enseignant, sans que nous cherchions à aller plus vite que lui. Il est le seul à pouvoir actualiser la parole de Dieu dans notre vie. Ainsi se conclut cette partie du livre de l'Apocalypse, qui contient les sept lettres aux églises. Elle nous parle du temps présent. On se rappelle des trois sections du livre, passé, présent et avenir, selon Apocalypse, chapitre 1, verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Nous venons de terminer ce qui est. Nous verrons dans les prochaines émissions ce qui doit arriver ensuite. Nous avons passé beaucoup de temps sur cette partie, car elle nous concerne. si nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes membres de son corps. Ce corps a commencé son existence au jour de la Pentecôte et elle se poursuit jusqu'à ce jour. Nous faisons partie de sa véritable Église. L'Église de Philadelphie, si nous avons personnellement reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Les époques d'histoire de l'Église rattachées aux cinq premiers messages sont maintenant révolues. Mais nous vivons encore de nos jours à l'époque des deux dernières églises, c'est-à-dire Philadelphie et Laodicée. Or, une bifurcation de plus en plus marquée se trace dans l'Église visible d'aujourd'hui. Nous venons de terminer la description de l'Église de Laodicée. Elle s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu et s'approche de plus en plus de l'apostasie. Avant elle, nous avons visité l'Église de Philadelphie, qui garde fidèlement la parole de Dieu. Elle sera la seule à être enlevée quand Jésus-Christ l'appellera à lui. L'autre Église professe sa foi en Jésus-Christ, mais depuis longtemps elle s'est éloignée de la vérité de la parole de Dieu et de la personne de Jésus-Christ. Et quand l'Église de Philadelphie sera enlevée, l'Église de Laodicée devra rester sur terre pour vivre la période de la grande tribulation. Terminons notre émission avec un bref retour sur la situation dans chacune des sept églises. On trouve beaucoup d'aspects positifs dans l'église d'Éphèse, mais le Seigneur l'avertit. Elle a oublié son premier amour pour lui. Or, aujourd'hui encore, si nous aimons le Seigneur Jésus, nous entretiendrons une bonne relation avec lui. Nous serons ainsi préservés de toute tiédeur. Un prédicateur de la région de New York a déjà dit que 20 chrétiens tièdes nuisent plus à la cause de Jésus-Christ qu'un athée avoué. Une église tiède fait honte à notre Dieu. Ensuite, le Seigneur Jésus félicite l'église de Smyrne et l'encourage à ne pas craindre la souffrance. Pourtant, aujourd'hui, nous hésitons à payer le prix de notre service envers Dieu. À l'église de Pergame, Jésus reproche son manque de rigueur doctrinale. Elle a laissé entrer chez elle l'enseignement de Balaam et des Nicolaïtes. À l'église de Thyatire, nous avons un peu la même situation. Là, c'est la fausse enseignante Jézabel qui fait ses ravages. Encore aujourd'hui, trop de chrétiens pensent qu'ils peuvent vivre selon la volonté de Dieu le dimanche et obéir à leurs désirs et ambitions personnelles le reste de la semaine. Mais un véritable enfant de Dieu se soumet à lui en tout temps. L'église de Sardes court le risque de mourir spirituellement et elle semble tout ignorer de son état réel. L'église de Philadelphie ne court aucun danger grave. Jésus ne la critique pas et il l'encourage à garder ferme ce qu'elle possède déjà. Nous aussi, même si nous entretenons présentement une bonne relation avec Dieu, nous devons rester vigilants. L'église de Laodicée est critiquée pour sa tiédeur. Elle est l'église apostate qui professe sa foi en Jésus-Christ, mais qui, dans les faits, est proche de mourir. Jésus lui offre une dernière chance de se repentir et de revenir à lui. Voilà un résumé des situations de l'église du temps de l'apôtre Jean. Maintenant, qu'en est-il de ta vie? Est-elle froide, chaude, bouillante, tiède? Ton cœur bat-il au même rythme que l'Évangile, c'est-à-dire les sentiments de Dieu? Viennent-ils motiver ta vie de tous les jours? As-tu une relation intime et personnelle avec Dieu par le seul moyen, par l'entremise de son Fils Jésus-Christ? L'as-tu déjà imploré? Lui as-tu dit de venir te sauver, te racheter, te laver, te purifier, d'accomplir son œuvre? Afin qu'il sauve ton âme de la perdition éternelle. C'est le seul moyen que Dieu a mis à la portée de tous les pécheurs. À toi maintenant de prendre cette décision, maintenant. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 4, un seul verset, le verset 1. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, ça m'épate toujours quand la parole de Dieu nous enseigne que Dieu utilise des gens de condition humble pour prêcher sa parole et qu'il a même envoyé son fils Jésus dans la peau d'un prédicateur itinérant sans aucun autre bien matériel que les vêtements qu'il avait sur le dos, comme Régent nous l'a si bien enseigné aujourd'hui. Oui, ça m'épate et ça m'encourage. Ça revient toujours à dire que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Notre église à Granby organise des déjeuners de l'espoir 4 fois par année. On fait venir une personne qui donne son témoignage, qui raconte comment Dieu s'est fait connaître à elle. Et peu importe l'arrière-plan de cette personne, peu importe si sa vie a été bien ordinaire, quand elle arrive au moment de son témoignage où Dieu l'a convaincue qu'elle avait péché et qu'elle devait placer sa confiance en Jésus seul pour être pardonnée et pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle, eh bien, ça me touche toujours énormément. Parce que ça me rappelle le moment de ma propre conversion, de ce jour mémorable où Dieu m'a transformée en faisant de moi une enfant de Dieu qui passerait l'éternité avec lui au ciel. Alors mon ami, peu importe qui tu as beaucoup d'importance pour Dieu. N'a-t-il pas donné son Fils unique pour te sauver? Eh bien, si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, je t'invite à faire ce qui nous est enseigné aujourd'hui. Ouvre la porte de ton cœur. Régent nous a bien mentionné que la poignée de cette porte se trouvait à l'intérieur de ton cœur. Le Seigneur, lui, se tient à la porte, à l'extérieur, et il frappe. Il n'y a pas de poignée de porte à l'extérieur de ton cœur. Et Jésus ne va pas enfoncer cette porte. Il te laisse libre d'ouvrir et de le laisser entrer, ou bien de choisir de continuer ta vie indépendamment de lui. Mais sache que si ce dernier est ton choix, tu vas te priver de sa présence pour l'éternité. Il a payé cher pour te sauver. Il s'est laissé crucifier, mettre à mort. Mais il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant et c'est avec amour qu'il t'appelle à lui. Ne résiste pas. Accepte Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Demande-lui de te sauver maintenant. Si tu crois en lui de tout ton cœur, si tu mets de côté toutes les bonnes œuvres que tu aurais pu faire durant ta vie, eh bien, dis-lui maintenant, « Seigneur, sauve-moi. » Et peut-être qu'un jour, tu seras toi-même invité à raconter ce que Jésus a fait pour toi dans le cadre d'un déjeuner de l'espoir ou autre. Mais chose certaine, tu ne seras pas capable de garder ce salut pour toi. Tu vas désirer le partager avec tous ceux que tu aimes et même avec des gens qui ne voudront rien savoir. Mais tu auras la joie de semer, tout comme moi présentement, qui est la joie de t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors prends ce cadeau que Jésus t'offre maintenant. Demande-lui tout simplement de te sauver, si tu crois de tout ton cœur en Jésus.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143. Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.